Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce huitième jour, pour la neuvaine de prière pour les malades. Quand la souffrance s'interroge, Dieu répond par l'espérance. En ce huitième jour de notre neuvaine, approfondissons la notion de bien et de mal qui demeure l'un des problèmes les plus fondamentaux de l'existence humaine. Pour la saisir dans sa vérité, il nous faut remonter aux racines bibliques que nous avons déjà entrevues dans les conférences précédentes. Elles trouvent son enracinement premier dans le récit biblique des premiers principes, le livre de la Genèse. Nous y trouvons plus précisément l'origine du mystère du péché originel, sans laquelle nous ne pouvons comprendre ni la profondeur de la souffrance, ni la condition réelle de l'homme. Au centre du jardin d'Éden se dresse l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. Le récit de la Genèse nous révèle que le démon, une intelligence supérieure angélique, qui, sous la forme du serpent, suggère à l'homme de s'approprier, par ses propres forces, le discernement ultime du bien et du mal, en affirmant « Vous serez comme Dieu ». Ce faisant, il insinue subtilement la méchanceté du Créateur en dépeignant un Dieu jaloux de son privilège, tel un tyran qui cacherait la vérité à ses créatures pour les maintenir dans la servitude. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, comme des dieux. Alors que Dieu avait dit « Tu mangeras de tout arbre, sauf » Le serpent corrompt l'intégrité du commandement divin, lequel s'ouvrait par une permission généreuse. Tu pourras manger de tout arbre, en lui substituant une interrogation insidieuse. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » Par ce renversement insidieux, il transforme une limite protectrice en une interdiction universelle, instillant ainsi dans l'intelligence de l'homme l'idée d'un Dieu arbitraire et restrictif. Cette erreur induite est une déstabilisation de la structure logique de l'homme. Ce premier péché est l'orgueil, mais qu'il commence par une erreur de l'intelligence. C'est en définitive la source de toute souffrance de croire que Dieu nous prive d'un bien et de lui prêter une intention mauvaise. Or, seul Dieu peut connaître parfaitement le bien et le mal, car lui seul est la mesure du bien. Prétendre s'arroger ce discernement par ses propres forces, c'est entrer dans l'idéologie, une rationalité humaine fermée sur elle-même qui prétend remplacer la sagesse divine et définir le bien indépendamment de Dieu. C'est pourquoi la confusion entre foi et idéologie est un sujet majeur qui touche de près notre méditation sur la souffrance. Lorsque l'homme interprète le réel à partir de critères erronés ou qu'il formule des jugements erronés sur les situations qu'il vit, il s'enferme dans une impasse interprétative dont il ne peut se sortir seul. De là naît une souffrance profonde, souvent épouvantable et dévastatrice, car elle est privée de vérité. Il importe maintenant de distinguer avec soin deux types de souffrances. Il existe une souffrance régulatrice, inscrite dans les mécanismes mêmes de la vie. Elle protège l'organisme car elle signale un déséquilibre. La douleur de la brûlure, par exemple, alerte et incite à retirer la main et permet d'éviter la destruction du corps. Cette douleur est nécessaire, voire utile, même si elle est désagréable. En ce sens, la souffrance est une médiation de la vie elle-même. Il existe d'ailleurs des maladies rares qui montrent combien la douleur est une fonction vitale. L'insensibilité congénitale à la douleur, l'ICD, aussi appelée analgésie congénitale, illustre de manière frappante cette fonction vitale de la douleur. Cette maladie, due à une mutation génétique, empêche la transmission du signal douloureux et rend la personne totalement incapable de percevoir la douleur physique. Les personnes atteintes de cette maladie rare ne ressentent pas la douleur physique, malgré les blessures parfois graves. Elles peuvent ainsi se brûler, se fracturer ou se mutiler sans s'en apercevoir immédiatement. Beaucoup développent des déformations articulaires ou perdent des membres faute d'avoir perçu le danger. Cette pathologie montre ainsi que la douleur, bien qu'éprouvante, joue un rôle fondamental dans la préservation de la vie et de l'intégrité du corps. Mais il existe également des souffrances inutiles et destructrices qui proviennent d'erreurs de régulation, de dérèglements dans les niveaux psychiques ou spirituels de l'existence humaine. C'est précisément ici que s'exerce notre liberté, avec sa capacité de discernement et son risque permanent d'erreur. Dans cette perspective, il est possible de distinguer trois niveaux interdépendants. Le premier niveau, le niveau biologique, qui régule automatiquement les échanges vitaux avec l'environnement, comme la sensation de faim, de froid, de soif. Ensuite, le deuxième niveau, le niveau psychique, qui régule les régulations elles-mêmes, qui permet de supporter ou de remédier. Et enfin, le troisième niveau, le niveau spirituel, qui juge la valeur ultime de ces régulations. Cette hiérarchie éclaire la complexité de la souffrance humaine. Une souffrance corporelle peut avoir une origine psychique, et une souffrance psychique peut être influencée par des dynamiques spirituelles. Dans le domaine spirituel, nous incluons tout ce qui relève du monde des anges, qui sont des intelligences pures, créées par Dieu. Les anges fidèles nous assistent avec miséricorde, même lorsque nous ne sommes pas très vertueux. Les démons, quant à eux, parce qu'ils sont en révolte contre Dieu, cherchent à nous manipuler, à nous faire oublier, comme au jardin d'Éden, à détourner l'homme de sa fin ultime. Dès que nous cessons de réfléchir avec vigilance, nous devenons leur proie facile. Il est bon de rappeler que tous les anges ont été créés dans la droiture de leur nature par la bonté de Dieu. Comme nous, ils sont des êtres doués d'intelligence et de volonté, capables de connaître et d'aimer. Mais, selon l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, leur choix est d'une clarté et d'une liberté incomparables. L'ange, dit-il, par un seul acte, se porte vers sa fin ou s'en détourne. Créé libre, créée avec un libre arbitre pleinement lucide, certains ont choisi de se détourner de Dieu, leur fin ultime, par un acte de volonté libre et définitif. Ce refus de la grâce, un refus posé dans une lumière sans ignorance ni faiblesse, a consommé leur chute et les a fixés dans ce choix. C'est ainsi que, selon Thomas d'Aquin, dira « la volonté de l'ange devient immuable après son choix ». Ceux qui ont rejeté Dieu sont devenus des démons, non par un défaut de création, mais par un usage mauvais de leur volonté libre. Beaucoup de nos contemporains ne croient plus à cette réalité angélique. Alors même qu'ils professent chaque dimanche, dans le symbole de Nicée-Constantinople, « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Pourtant, dès que nous approfondissons ce qu'est une régulation, puis une régulation de la régulation, autrement dit l'intervention de l'intelligence au sein du vivant, nous sommes conduits à envisager l'existence d'intelligences spirituelles. Certaines, angéliques, sont ordonnées au bien et au service de Dieu. D'autres, par la révolte des anges déchus, sont devenues démoniaques et cherchent à détourner l'homme de la vérité. Ainsi, dès lors que l'on reconnaît l'existence d'un combat au niveau même de l'intelligence et de l'orientation de la volonté, il devient clair que la question du mal et du bien dépasse les seuls mécanismes psychiques et ou sociaux. Le jugement sur la valeur éthique d'un acte, est-il bon ou mauvais, ne relève donc pas d'un seul contrôle psychique ou social. Il appartient en propre à la vie spirituelle. Autrement dit, la maîtrise technique ou l'efficacité d'une action ne suffisent jamais à en garantir la bonté. Une œuvre peut être admirable par son intelligence et pourtant demeurer moralement ambiguë si elle n'est pas éclairée par une juste finalité. Construire une fusée requiert de l'intelligence, du calcul et de l'organisation humaine, mais déterminer si ce projet est bon ou mauvais, jugé de sa valeur morale, appartient à un ordre supérieur, relève d'un registre infiniment plus élevé, celui de l'esprit éclairé par la grâce. L'être humain exerce une forme de liberté par le contrôle des régulations automatiques de sa vie biologique par sa vie psychique. Mais ce contrôle demeure limité, soumis au temps, à l'erreur et à l'imprévu. Toute tentative d'absolutiser ce contrôle jusqu'à imaginer une maîtrise totale du vivant, ce qui serait équivalent à le robotiser, relève d'un horizon que l'on peut rapprocher des utopies transhumanistes contemporaines. Une telle conception suppose un contrôle total des échanges vitaux, condition d'une immortalité biologique. Mais dans l'ordre présent de la nature, une telle maîtrise est impossible sans destruction de la liberté même elle-même. La tradition chrétienne distingue ici radicalement l'immortalité divine et angélique de la condition humaine actuelle. Les anges et Dieu possèdent une stabilité de l'être qui dépasse la condition biologique. L'homme, lui, est marqué par la dégénérescence et la finitude, mais il a l'espérance d'en être libéré. C'est pourquoi l'amour éternel n'est pas du même ordre que les sentiments éprouvés ici-bas. Seuls demeureront la foi, l'espérance et la charité, et la plus grande d'entre elles est la charité. Comme le rappelle saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Cet amour doit être concret et vécu ici-bas. À la résurrection, Jésus nous l'annonce clairement. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Tous ne font qu'un dans le Christ Jésus. Cela suppose une transformation profonde, une véritable transfiguration de notre être. Les distinctions biologiques et hormonales n'ont plus cours dans cet état glorifié. La foi, elle-même, est un acte de l'intelligence qui adhère librement à la vérité révélée. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut croire, adhérer à ce que Dieu nous a révélé et chercher humblement à le comprendre. Sinon, la révélation reste lettre morte, semblable à un discours sublime adressé à des arbres ou à des animaux. Jésus, ressuscité, nous offre le modèle parfait du contrôle de ses échanges avec son environnement. Il se rend visible ou invisible à volonté, va où il veut, parle à qui il veut. Nous, en revanche, nous ne maîtrisons ni notre visibilité, ni notre présence de la même manière. L'homme ne peut parvenir à une vie pleinement libre que si son intelligence, limitée et sujette à l'erreur, est éclairée par Dieu. Nous avons besoin du relais de l'intelligence angélique non déchue et ultimement du Créateur lui-même. Si nous nous coupons des anges, nous tombons inévitablement sous l'influence des démons. Nous sommes toujours engagés dans un combat spirituel. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, décrit précisément ce champ de lutte entre deux étendards, celui du Christ et celui de l'ennemi. Il n'existe pas de neutralité spirituelle. Ce combat explique pourquoi quitter le camp du mal pour celui du bien entraîne souvent de grandes souffrances. La souffrance devient alors un lieu privilégié de discernement spirituel. Et celui qui refuse de choisir devient comme un déserteur. Comprendre la souffrance exige donc de discerner pourquoi nous souffrons, ce qui est juste et ce qui est injuste. Avons-nous les critères pour opérer ce discernement? Toute une vie ne suffit pas toujours à nous éveiller, mais l'appel de l'Écriture reste pressant. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Aussi, la souffrance n'est jamais purement individuelle. Nous pouvons souffrir des conséquences de nos propres erreurs, mais aussi du contre-coup d'erreurs collectives. Un discernement spirituel attentif est indispensable. Toute souffrance n'est pas mauvaise a priori. Nos vies biologiques, psychiques et spirituelles sont étroitement corrélées. Des souffrances physiques peuvent avoir une cause spirituelle et que, dans la communion des saints, se réalisent des échanges, des transferts ou des partages de souffrances comme nous l'avons médité hier. Il est illusoire de croire que nous souffrons seuls dans notre coin. Nos représentations mentales erronées engendrent des comportements pathologiques qui finissent par se somatiser. Les mécanismes psychosomatiques sont bien connus de la médecine. Jésus nous invite pourtant avec force « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Se faire du souci ne sert à rien, nous le savons tous, et pourtant nous continuons souvent à nous inquiéter. Comprendre ne suffit pas toujours pour guérir. Le chemin de la délivrance est long et passe nécessairement par l'épreuve. Inversement, les illuminations de la grâce se somatisent également. La plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Saint Paul l'affirme avec solennité dans l'Épître aux Colossiens. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cette vérité s'oppose à toutes les hérésies qui nient l'union réelle et substantielle de la divinité et de l'humanité dans le Christ Jésus. Par l'Eucharistie, cette présence se prolonge mystérieusement en nous. Nous devenons des autres Christ. Saint Augustin le dit magnifiquement dans un de ses sermons aux nouveaux baptisés. Je le cite. « Soyez ce que vous voyez, non pas l'adoration eucharistique, et recevez ce que vous êtes dans la communion eucharistique. Le pain unique » fait de nombreux grains, symbolise l'unité du corps du Christ. L'Eucharistie réalise ainsi la grande prière de Jésus. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Cette union exige du temps et souvent beaucoup de souffrance avant que la lumière ne se fasse pleinement en nous. L'origine de la souffrance n'est donc pas la soif de renaissance ou de plaisir, comme l'enseigne le bouddhisme. Ces éléments font partie des souffrances, mais n'en sont pas la cause première. Affirmer le contraire relève souvent d'une anesthésie idéologique. Les erreurs idéologiques engendrent presque toujours leur contraire. Dans l'éducation, par exemple, le laxisme, il ne faut pas frustrer les enfants, sous-entendu, ne pas faire souffrir, produit des enfants rois, qui deviennent des adultes tyrans. On aboutit alors à des situations extrêmes où des parents appellent parfois la police face à leur enfant de 5 ou 15 ans. Comme l'explique le psychologue Didier Pleux, spécialiste de ces questions, l'intolérance à la frustration engendre de nombreux dysfonctionnements. De même, le laxisme social face aux casseurs prépare le terrain à une répression violente et, à la fin, à une requête plus ou moins consciente de dictature. Prendre le contre-pied d'une erreur ne conduit pas nécessairement à la vérité. Passer de l'athéisme au déisme, ou inversement, reste souvent une erreur idéologique. La vraie conversion n'est pas un simple changement d'idole, épistrophé en grec, mais une métanoïa, un retournement profond de la pensée, du nous, et de l'action, qui permet à Dieu de nous transformer de l'intérieur. La souffrance est donc d'abord une alerte salutaire du programme biologique. Heureusement qu'elle existe. Sans elle, nous ne survivrons pas. Nous ne survivrions pas. Elle exerce la même fonction au niveau psychique et social. Beaucoup de nos désirs proviennent du mimétisme social. Ils peuvent s'élever jusqu'à l'ordre de la charité, mais cela exige un discernement vigilant et constant. La souffrance spirituelle naît lorsque nous devenons conscients de nos relations avec le monde angélique. Nous vivons souvent dans une grande souffrance collective dont nous ne comprenons pas toujours l'origine. Ignorance, méfiance, haine, peur, etc. Fermer la porte à clé n'est plus seulement une habitude, mais le symptôme d'un malaise social profond. Jésus n'est pas venu apporter une paix factice où tout se vaut, où la tolérance est aveugle, mais il apporte le glaive, c'est-à-dire qu'il aide à trancher par le discernement. Je cite Jésus, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Certains conflits sont nécessaires pour la régulation en vue du bien véritable. Lui-même a affronté les autorités de son temps avec vérité et sans compromission. Il n'a pas hésité à dire, à déclarer « Vous avez le diable pour père ». Le bien universel et transcendant ne vient que de Dieu seul. Personne n'est bon, sinon Dieu seul, répond Jésus au notable qui l'interroge sur la vie éternelle. La souffrance injuste cessera lorsque nous rapprocherons du vrai bien, pleinement révélé en Jésus-Christ. La juste régulation de nos vies ne peut venir que de lui, source unique de l'inspiration. Ainsi, loin d'être une fatalité absurde, la souffrance, lorsqu'elle est discernée, accueillie et déposée au pied de la croix ou unie à celle de Jésus, devient un chemin d'éveil, de combat spirituel et, ultimement, une participation à la victoire du Christ sur le mal et sur la mort. La souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, devient un chemin de vie divine elle-même, où Dieu sera tout en tous. Amen.